Dialogue entre Congolais présenté par Alain Hirung.
Bonsoir et bon début de semaine. Le Premier ministre Adolphe Mouzito a déposé la démission de son gouvernement la semaine dernière. Quel bilan dressez des 3 ans de gestion de ce gouvernement sur le plan socio-économique, sécuritaire et politique? Nous recevons comme invité pour en parler François Nzékouyé, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Honorable Nzékouyé, bonsoir.
Bonsoir Alain Hirung.
Germain Kambinga, député national de l'opposition et porte-parole du MLC. Honorable Kambinga, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. Professeur Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions, chers auditeurs et internautes. Idili Majado de Bukavu, suivez-vous, les 3 ans de Mouzito passés à la primature méritent des éloges, car il n'est pas toujours facile d'exécuter un programme dont on n'a pas participé à la conception, quoique n'ayant pas été à la hauteur pour satisfaire toutes les attentes conformément aux 5 chantiers, le gouvernement Mouzito reste à féliciter parce que, avec le mariage de Palou AMP à l'époque, on s'attendait à moins que ce qui a été réalisé. Auguste Mopenzi Mumbere de Butembo Nord Kivu, mauvaise gestion, manque de professionnalisme, ni de vision pour ce grand pays, immobilisme, culte de la personnalité, ces quelques mots résument le bilan d'une primature qui n'aura existé que de façade. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, le Premier ministre Adolphe Mouzito a déposé la démission de son gouvernement mardi dernier. Pour l'honorable Lambert Mende, ministre honoraire de la communication et des médias de ce gouvernement, le bilan est globalement positif. On l'écoute au téléphone de Samuel Kachak s'exprimer sur le bilan socio-économique.
Le bilan du gouvernement Mouzito est globalement positif et comme l'a dit notre chef de l'État, aujourd'hui, on est mieux au Congo qu'on ne l'a été il y a 10 ans et je pense que c'est en ça que réside le caractère positif de ce bilan. Le Congo ne s'est certes pas transformé en un paradis, mais il y a eu des évolutions tout à fait notables dont tout esprit intellectuellement honnête devrait pouvoir prendre en compte dans l'analyse. Beaucoup de choses ont été faites pendant les 5 dernières années dans les domaines notamment de l'enseignement. Pour nos tout petits, nous avons remis la gratuité de l'enseignement primaire. Nous y sommes parvenus partiellement. Nous nous sommes également engagés pour améliorer progressivement le panier de la ménagère en partant des rémunérations des personnes qui sont soumises à un salaire. Nous sommes encore loin du compte, mais nous avons très sensiblement amélioré ce que nous avons trouvé en 2006. Nous avons également initié une série projets d'investissement dans le domaine du social. Construction d'hôpitaux, construction d'écoles, construction d'universités qui rentrent dans le secteur de l'amélioration du vécu quotidien de nos populations, des besoins sociaux de base. Nous sommes encore évidemment là aussi loin du compte parce que tout est question de disponibilité budgétaire.
Bilan du gouvernement Mouzito globalement positif. François Nzékouyé, vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. N'est-ce pas trop fort ou trop dire quand on sait que l'accès à l'eau potable, à l'électricité reste encore des défis, l'enseignement, la santé?
Quand on vise le bilan de quelqu'un, on fait d'abord allusion aux missions qu'on lui a confiées. Et je crois que en nous rappelant des missions qui ont été confiées au gouvernement Mouzito, qui consistait à mettre la fin à la guerre à l'est du Congo, à assurer la paix à travers tous les pays, à stabiliser les cadres macroéconomiques, à relancer les travaux de la reconstruction nationale, On peut bien dire, effectivement, que le bilan est positif. Sans pour autant dire que tout a été parfait, parce que du point de vue sécuritaire, il reste encore des postes de résistance où il y a encore des actions. Pas plus tard que ce matin, on m'a appelé de Rutshuru pour m'informer qu'il y a des bandits qui continuent à violer, qui continuent à piller. Et donc, mais globalement, vu dans l'ensemble du pays, regardant la situation dans laquelle nous étions en 2006, du point de vue sécuritaire, vous vous rappelez que les CNDP étaient encore un mouvement armé, les PARECO, il y avait des mouvements Maïmaï, nous n'étions pas, nous ne sommes pas dans la situation dans laquelle nous étions hier.
Alors, globalement positif, je vous propose que l'on commence secteur par secteur. Commençons par le socio-économique, François Zécoué.
Oui, du point de vue socio-économique, nous regardons souvent les effets plutôt que de regarder les causes. Aujourd'hui, beaucoup a été fait, effectivement, du point de vue socio-économique. Et quand nous étions en 2006, la situation était hyper inflationniste. Il n'y avait pas de stabilité des prix sur les marchés. Et aujourd'hui, il y a une maîtrise, qui n'est pas parfaite, mais une très bonne maîtrise du cadre macroéconomique qui, au moins, empêche que celui qui a un revenu quelconque ne voit son revenu s'effriter le lendemain ou un mois plus tard. C'est une avancée de ce point de vue-là.
Mais quel revenu pour quelqu'un qui vit sous le seuil de moins d'un dollar par jour?
Oui, je crois que les agents qui sont payés par l'État, personne n'est en dessous des 1 dollar par jour. C'est vrai que ça reste très peu ce qui est payé, mais quand quelqu'un n'avait même pas un salaire, comme dans le domaine de l'enseignement, où on a mécanisé en quelques années plus de 180 000 agents qui n'avaient aucun salaire, et qui aujourd'hui en ont quand même, c'est déjà quelque chose, même si nous disons que nous devons faire davantage. Nous ne nous auto-satisfaisons pas de ce qui a été fait, mais nous estimons quand même que quelque chose a été fait. Quand nous regardons la situation aujourd'hui du revenu national de ces pays, nous sommes passés en 2006 à un revenu un budget plutôt de 800 millions de dollars à un budget de 4 milliards plutôt à terme des contributions internes de ces pays. Nous étions dans une situation où au Congo il n'y avait que 10 banques agréées, aujourd'hui il y en a 22. Nous étions dans une situation où il y avait 5 000 personnes qui avaient un compte bancaire. Aujourd'hui, nous sommes à 1 million. C'est 1 million de personnes, c'est qu'ils ont un revenu, qu'ils veulent épargner. Et donc, j'estime que, de ce point de vue-là aussi, il y a des avancées. Mais il reste encore beaucoup à faire, comme l'a dit encore l'ancien porte-parole du gouvernement. De ce point de vue-là, bien évidemment, nous devons tout faire pendant cette législature pour accroître les salaires de ceux qui dépendent de l'État. Mais tout le monde n'est pas salarié de l'État. Il faut, par contre, accroître les investissements dans ces pays pour qu'il y ait davantage de Congolais qui aient de l'emploi et que nous protégions la main-d'œuvre congolaise. De sorte que les grandes entreprises qui viennent investir dans le pays, nous devons leur exiger 20% de sous-traitance. Et dans les cadres de direction, nous devons exiger un pourcentage des Congolais qui doivent participer au management des entreprises.
Sur le plan économique, on a souvent cité l'atteinte du point d'achèvement parmi les grandes réalisations du gouvernement Mobutu, mais on a toujours beaucoup de peine à suivre les effets que ça a eu sur le plan socio-économique.
Oui, en fait, c'est parce qu'effectivement, on veut que cette baisse ou cette réduction de la dette de 90% se transforme en argent qui va entrer dans la poche de chaque Congolais. Mais nous ne devons pas nous leurrer en oubliant qu'aujourd'hui que 20 millions de dollars sont déboursés chaque mois par le ministère des Finances pour les infrastructures dans ce pays. Nous ne devons pas oublier que plus de 200 millions de dollars, si pas plus, ont été débloqués par le ministère des Finances pour participer aux élections de notre pays. Et donc, ça fait quand même qu'il y a des retombées qui ne sont pas des retombées immédiates, mais qui sont des facilitations. Parce que quand on devait faire une semaine entre Kinshasa et Kikwit pour transporter les maniocs qui doivent venir de là, on fait quelques heures, c'est une avancée tant pour les transporteurs
dont le véhicule ne va plus tomber en panne tous les jours à cause de mauvais état des routes. C'est une économie pour l'entretien. Tant pour le commerçant qui ne verra pas son manioc pourrir à cause de la pluie et stationner à un endroit et qui peut évacuer facilement sa marchandise, il y a beaucoup de gains qui sont constatés par rapport à ce qui a été fait. Simplement, comme je dis encore une fois, il faut que les citoyens congolais arrivent à bénéficier chacun individuellement de ses retombées, et je crois que c'est ça le rôle de ce mandat qui va être essentiellement un mandat du social.
Honorable Germain Kandinga, vous êtes député national de l'opposition et porte-parole du MLC. Beaucoup a été fait. Il y a la stabilité des prix sur le marché et la maîtrise du cadre macroéconomique. Honorable, quel est le bilan que vous dressez de la gestion du gouvernement Mobutu sur le plan socio-économique d'abord?
Écoutez, effectivement, nous venons d'apprendre que ce gouvernement vient de déposer sa démission. On a envie de dire, ouf, enfin, la fin du cauchemar. Parce qu'en réalité, tout ce que vous énoncez comme bilan ou résultat, à mes yeux, ou aux yeux de la majorité de Congolais, ressemble plus à des vœux pieux, à des souhaits, stabilité des prix. Mais dans quel pays vivent nos amis de la majorité? Est-ce qu'ils vivent à Kinshasa? Vivent-ils dans les quartiers de Kinshasa? Où vivent-ils? Sur quelle planète? Tout le monde sait très bien qu'il y a une dégradation tout à fait catastrophique du niveau de vie des Congolais. On parle même plus de panier de la ménagère dans ce pays, on parle du sachet de la ménagère. Nous sommes quand même dans une ville où les gens ne peuvent même plus s'acheter un kilo de chachard. On achète des têtes de poisson en République démocratique du Congo parce que précisément les prix n'arrêtent pas de prendre l'ascenseur. Donc je ne sais pas de quelle stabilité des prix on parle. On dit il y avait une inflation galopante en 2006, j'ai plutôt l'impression que c'est depuis l'avènement de cette alliance contre nature entre le PALU et la MP que le pays a dégringolé dans une phase d'instabilité, parce que il vous souviendra qu'en 2006, lorsque le gouvernement de transition déposait, le franc congolais était à 470, aujourd'hui il est à plus de 900. Donc je ne vois pas de quelle stabilité du cadre macroéconomique on parle. Vous savez, les statistiques peuvent être manipulées pour donner l'impression qu'il y a une évolution. Pour cela, il suffirait de faire des analyses annuelles plutôt que des analyses périodiques. On dit on analyse de 2011 à 2012, mais on oublie qu'en réalité le bilan doit pouvoir se faire de 2006 à 2011 pour savoir effectivement est-ce que la logique gouvernementale ANP-PALU avec en point d'orgue le gouvernement Mobutu a pu rencontrer, si vous voulez, les impératifs d'efficience économique. Là, nous dirons non parce qu'il y a eu une perte de plus de 100% de la valeur du franc congolais, perte qui s'est ressentie inévitablement sur le pouvoir d'achat du peuple congolais. Lorsqu'on ajoute à cela le fait que, évoluant en valeur, si vous voulez, numérique, mais pas en valeur réelle, les salaires des fonctionnaires n'ont pas pu rencontrer ou bien épouser l'évolution du taux d'inflation. Ce qui veut dire que les Congolais ou le Congolais qui donne aujourd'hui, si vous voulez, 100 000 francs, a un pouvoir d'achat beaucoup moins élevé que le Congolais qui gagnait le même montant qu'en 2006. Donc, ce sont des nuances qu'on doit pouvoir apporter. On parle de stabilité du cadre macroéconomique. Je vous ai dit que le franc congolais a perdu 100% de sa valeur. Je vous ai dit que les prix ont pris l'ascenseur. Et très récemment encore, la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods ont failli remettre en cause la coopération avec notre pays. Souvenez-vous des nouvelles des différentes sonnettes d'alarme de la Banque mondiale qui a maintes reprises n'a cessé de rappeler à notre gouvernement la nécessité d'avoir une gouvernance beaucoup plus efficace. Autant de problèmes qui nous laissent penser qu'effectivement, sur le plan économique, il y a eu un déficit managérial. Quelles ont été les politiques industrielles à même de pouvoir apporter des perspectives à notre pays? L'agriculture, en ont-on fait un secteur porteur, un secteur créateur d'emplois? Le taux de croissance a-t-il été suffisamment, si vous voulez, volontariste pour permettre une évolution, une élévation du niveau de la production, du niveau des avoirs, du niveau des richesses nationales? Je dirais non.
Honorable Kambinga, j'ai parlé tout à l'heure de l'atteinte du point d'achèvement qui est souvent
parmi les points. C'est ça, voilà encore une grosse plaisanterie.
Honorable,
l'atteinte du point d'achèvement, honorable, le résultat
honorable Kambinga
d'un processus gouvernemental.
Honorable Kambinga,
2001,
Honorable, honorable Kambinga, je voulais juste vous demander, à vos yeux, n'y a-t-il pas certaines avancées dans l'action
du gouvernement Mobutu? Je voudrais point d'achèvement.
Oui.
Je voudrais également vous parler de la TVA. Ce sont des réformes, en réalité, qui arrivent à leur conclusion de manière opportune pour des gens qui n'ont rien fait pour cela. Le point d'achèvement est une initiative entamée à l'époque du ministre Matungulu en 2001 et renforcée par le gouvernement de transition. Lorsqu'on arrive au premier gouvernement de la Troisième République, nous sommes déjà au point de décision. Il ne reste plus qu'à atteindre le point d'achèvement. Autrement dit, ils n'ont fait qu'hériter d'une situation qui avait de bonne gestion ou de gestion rigoureuse des finances publiques entamée depuis 2001.
Et donc,
il en va de même de la taxe sur la valeur ajoutée qui restait une des conditions exigées par les différents bailleurs de fonds pour constater ou consacrer l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est une réforme qui a été adoptée depuis la transition, mais votée pendant effectivement cette dernière législature et mise en œuvre ensuite.
Mise en œuvre
catastrophique, puisque jusque-là, nous avons constaté plutôt un dérapage au niveau des prix dans les premiers temps, en tout cas, même
merci.
Si... de plus en plus, la situation semble en venir à la normale. On peut parler de normalité dans un pays où effectivement la direction de la régulation économique, de la concurrence et des prix est réduite à un simple couloir au sein du ministère de l'économie. Donc vous imaginez la part belle qui est faite à tous les trafiquants, les mafieux au marché noir et autres.
Merci.
Donc autant dire que de ce point de vue de la gouvernance économique, le pays n'a pas été au rendez-vous.
Merci.
Je vais revenir rapidement sur
Honorable Kambinga
a dit.
Honorable Kambinga, je vous redonne la parole tout à l'heure, le temps de la passer au professeur Pierre Virgence, professeur à l'université de Liège en Belgique et à l'université de Butembo en RDC. Professeur, quelle est votre analyse à ce niveau du débat sur le plan socio-économique d'abord?
Et sur le plan socio-économique, en tant que politologue, ma première remarque, c'est évidemment de regarder le bilan que les citoyens congolais ont pu tirer lors des scrutins de la fin de l'année 2011 à propos du gouvernement et du Parlement qu'ils devaient réunir. Puisque c'est quand même devant le Parlement que ce gouvernement avait des comptes à rendre. Et donc c'est une évaluation en fait par les citoyens. Le travail du Parlement, c'est une manière aussi de voir ce que les citoyens pensaient du gouvernement. Et là, on peut voir qu'il y a un bilan largement mitigé, rien que sur le plan politique, puisque là, énormément de candidats issus de la majorité présidentielle n'ont pas été réélus pour des raisons politiques assez évidentes quand on écoute les discours de la population et des électeurs congolais. Et ça, c'est le premier élément. Donc, on a bien l'impression que la majorité a été globalement sanctionnée, mais en même temps, la majorité a quand même réussi, sous des manœuvres, mais qui sont relativement lisibles par la plupart des électeurs, à réobtenir une majorité. Et donc là, on peut se dire que même si les groupes issus de l'ancienne majorité ont perdu une partie de leur légitimité, ils ont recomposé cette légitimité par ailleurs. Et donc là, on peut dire que le premier bilan tiré par les électeurs, y compris sur le plan socio-économique, c'est un bilan à la fois négatif parce que beaucoup ont perdu leur siège et à la fois positif puisque d'autres candidats, ou même parfois, ont repris leur siège. Donc là, il y a effectivement un décompte précis à faire et là, il y a une analyse électorale à faire qui donnera le point de vue des électeurs sur le travail du gouvernement. On a sur le plan socio-économique, ben, on a entendu les deux points de vue défendus ici d'une façon relativement cadrée et en utilisant bien les chiffres et les points de repère que les Congolais peuvent connaître et que la communauté internationale utilise. Il y a évidemment eu une continuation du climat économique global de la République démocratique du Congo. Quand on voit le gouffre où était tombé le Zaïre, puis la République démocratique du Congo jusqu'en 2003, eh bien, c'était une catastrophe économique incessante d'une certaine manière. Et depuis 2003, on a vu effectivement qu'il y avait une remontée qui s'est traduite directement dans le produit produit intérieur brut, et cette remontée continue. Pour le moment, le Congo est un des pays de l'ère Afrique de l'Est qui est en très bonne position avec une augmentation du PIB. Mais le problème, effectivement, c'est que les citoyens eux-mêmes, les simples électeurs, ne voient pas cette amélioration. Cette amélioration est essentiellement une amélioration, je dirais, qui va dans les mains des grands trafiquants de minerais qui réussissent effectivement à améliorer le climat des affaires et qui probablement amèneront des répercussions dans la vie de tous les jours, mais en attendant, malgré le fait qu'on voit des constructions un peu partout, malgré le fait qu'on voit dans tout le pays des gens qui recommencent à construire des maisons en briques, eh bien, on voit que la situation du Congolais est une situation pénible et beaucoup de Congolais, effectivement, impliquent la difficulté de cette situation socio-économique au gouvernement et au Parlement, devant qui le gouvernement est responsable.
Professeur, qu'est-ce que vous pensez du point de vue de certains analystes ou observateurs qui pensent que la RDC était dans un gouffre tel qu'il était trop grand au point d'engloutir les différentes actions de ce gouvernement?
Ça, c'est clair, quand on voit le déclin incessant du produit intérieur brut congolais depuis 1970 jusqu'en 2003, il y a un déclin continu, accéléré à la fin de la période, évidemment, avec la guerre civile et la guerre extérieure. Et là, on voit bien que, effectivement, le Congo était vraiment très, très bas. Et maintenant, ce qu'on peut voir comme activité économique, c'est d'abord le fait que les gens construisent des maisons, ils commencent à acheter des toits métalliques pour leurs maisons, donc ils commencent à isoler leurs maisons pour pouvoir vivre d'une façon plus décente. Et là, on voit que les premiers investissements que les gens font, dès qu'ils peuvent avoir un peu d'argent, c'est améliorer le niveau de vie de leur famille. Et là, on voit bien que c'est vraiment par le bas que le Congo se reconstruit d'une part, et aussi par le haut, comme je l'ai dit, avec les minerais. Et là, je dirais, on peut voir tout en bas, donc les gens qui se reconstruisent sans entendre quoi que ce soit de l'État, et tout en haut, alors là, les grandes sociétés exportatrices qui, elles, évidemment, profitent à la fois de l'État, à la fois de leurs concessions et à la fois, évidemment, du prix des matières premières.
Honorable François Zekouille, brève réaction. Vous avez suivi l'honorable Kandinga et le professeur Vigence. Pour l'honorable Kandinga, vous vivez apparemment sur Mars parce que déconnecté des réalités que vit la population congolaise.
Oui, parce que si pour vivre sur Terre, cela signifierait nier les dividendes du fait qu'on ne doit plus payer chaque année 400 millions de dollars au service de la dette et que nous pouvons les économiser pour pouvoir reconstruire les pays, que nous puissions financer presque totalement les élections dans notre pays pendant qu'en 2006, ces élections ont été à 90% financées par l'extérieur. Si c'est là vivre sur Mars, je crois que nous sommes sur Mars. Mais je crois que nos amis de l'opposition ont toujours tendance à voir tout en noir. Même quand il y a une question de bien, nous ne parlons pas tout à l'heure. Je vous ai dit que sur le point de vue social, nous reconnaissons que nous avons encore beaucoup à faire. Et donc, entre l'effet de reconnaître ce qui est fait et ce qui manque encore à faire, c'est cela, à mon avis, ce qui devait être le point de vue d'une opposition constructive. Mais malheureusement, la nôtre, elle est là qui est juste pour condamner et pour s'accaparer des dividendes de ce que nous faisons. Quand Jeannette Kandinga nous rappelle que l'annulation de la dette a commencé avec la transition, c'est vrai, nous les reconnaissons aussi, mais nous aurons pu arrêter cet effort-là. Nous l'avons continué et nous avons obtenu une nation de la dette. Donc, nous ne devons pas nous mettre toujours à des positions contradictoires et croire que c'est cela faire honneur à la démocratie. Par contre, j'apprécie énormément le point de vue du professeur Pierre Vergent qui nous montre effectivement que le Congo, du point de vue économique, est dans une situation dynamique. Quand les Congolais commencent à construire en tôle, c'est un indice clair pour dire qu'il y a une croissance des revenus. Quand vous regardez le nombre de bâtiments qui se construisent à travers les grandes villes de ces pays, en commençant par Kinshasa, ça montre qu'il y a une dynamique économique. Tous les grands hôtels s'invitent à Kinshasa au moment où ils ne venaient pas ici il y a 5 ans. Donc c'est dire quand même
il y a quelque chose qui a été débougé et nous allons voir des évidences dans les années qui viennent.
Abordons notre deuxième aspect bilan du gouvernement d'Adolphe Mojito. On écoute le ministre, l'honorable Lambert Mende, ministre honoraire de la communication et des médias, s'exprimer sur le bilan sécuritaire.
Sur le plan sécuritaire, notre engagement était de mettre fin à la guerre. Vous savez dans quel état se trouvait le pays lorsque les élections étaient organisées. 5 ans après, nous avons fait reculer les limites de l'insécurité. Au moment où nous prenions les choses en main, en 2006, des provinces comme le Sud Kivu, le Nord Kivu et une grande partie de l'Ituri en province orientale étaient contrôlées seulement à 20% par l'administration de l'État. Aujourd'hui, nous avons non seulement inversé la tendance, nous sommes allés beaucoup plus loin, nous contrôlons comme État plus de 95% de ces espaces et seulement 5% de zones restent à la merci des groupes résiduels de bandits armés et autres forces négatives que nous continuons à combattre après avoir réorganisé sous forme d'enrégimentation nos forces armées.
Prenons quelques réactions des auditeurs François Ndekouye avant de donner la parole à l'honorable Kambinga. Jean-Tarcisse Congolo de Goma en Nord Kivu. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement Mojito a un bilan négatif car il n'a pas pu rétablir la paix à l'est du pays en ignorant que c'est l'une de ses missions. Duke Kaningu. En 3 ans, je pense que le bilan du gouvernement Mojito est un échec car l'insécurité persiste à l'est, la situation macroéconomique est en péril et la reconstruction des infrastructures du pays n'est pas encore effective. Il faut quand même noter quelques avancées. Et des mags à Justin de Boutembo Nord Kivu, le bilan est négatif sur le plan sécuritaire, car les groupes armés sont encore en mouvement, tels qu'à Dungu et au Nord Kivu. Le gouvernement contrôle près de 95% du territoire, c'est l'honorable Mende, ministre honoraire de la communication et médias qui le dit, mais on a l'impression que c'est dans les 5% de résiduels qu'il y a beaucoup plus de mal, beaucoup plus de meurtres, d'assassinats, de viols et de pillages.
Oui, c'est en partie vrai, effectivement, que c'est dans les 5% résiduels qu'il reste encore beaucoup de problèmes. Mais comparer cette situation à celle de 2006, où des pans entiers du territoire étaient sous contrôle des mouvements rebelles, nous devons reconnaître qu'il y a des avancées. Nous disons effectivement qu'il y a encore des problèmes de sécurité. Comme je vous le disais à début d'émission, on m'a fait des Rutshuru ce matin pour m'informer qu'il y avait des cas de viol encore à Rutshuru, qu'il y a des cas de pillage des commerçants, on arrête des véhicules en cours de route entre Butembo et Goma. Ces faits existent encore et le gouvernement de la République s'emploie à éliminer ces gens de phénomène. Mais nous disons aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente. Le CNDP en 2006 était encore un mouvement rebelle, ou juste un parti politique qui a participé aux élections.
Mais il y a toujours des groupes armés qui naissent et qui renaissent à l'Est.
C'est vrai que cela existe, mais ils n'ont pas la même force de frappe il y a quelques années. Il faut qu'on les reconnaisse. Et la plupart des fois, ils sont très vite maîtrisés par nos forces armées. Et donc, nous disons qu'il y a une évolution de ce point de vue-là, sans pour autant, encore une fois, nous dire que tout va bien. Donc, je disais qu'aujourd'hui, les CNDP et les PARECO ont participé aux élections. Et les PARECO ont même un député au sein de cette assemblée. Les CNDP auraient pu en avoir à Massissi si on avait proclamé les états de Massissi. C'est vous dire quand même que ces genres de choses sont des avancées significatives. Et que Mojito ne laisse pas, laisse dans la situation où il a trouvé. Nous disons qu'il faut qu'on arrive à éradiquer complètement ces mouvements, ces poches d'insécurité pour que toute la population vive dans la paix, que nos mamans à Massissi, à Rutshuru, à Walikale et ailleurs aillent dans les champs normalement sans avoir crainte d'être violées. Ça reste encore à faire, mais ce qui a été fait est déjà beaucoup. Mais ce qui reste à faire, nous allons le faire ensemble pendant les 5 ans à venir et nous espérons que nous pourrons arriver à éradiquer cette situation pour que nos frères qui vivent à l'Est vivent dans une situation aussi pacifique que ceux qui sont à l'Ouest du pays.
Honorable Kambinga, nous avons abordé la deuxième partie, le plan sécuritaire. Il y a des avancées par rapport à 2006, même s'il y a encore des pauses résiduelles. Quelle est votre réaction et permettez-moi de temps en temps de vous relancer pour que les auditeurs puissent avoir un peu plus de précision sur ce que vous dites.
Bon, écoutez, déjà, je voudrais quand même constater que votre débat est tout à fait déséquilibré, parce qu'en même temps, vous avez un député de la majorité qui intervient en direct et un autre qui intervient par des enregistrements. Tout ceci ne donne pas l'impression que vous êtes à la recherche d'un équilibre en termes de partage de temps de parole. Et c'était juste une remarque, parce que c'est un constat que je fais. Maintenant, en parlant de la sécurité, je voudrais aller plus loin que les questions sécuritaires liées aux groupes armés ou autres. Je crois qu'il y a un problème fondamental qu'on doit pouvoir mettre sur la table. C'est le problème des droits de l'homme, c'est le problème des libertés. Puis, évidemment, on transite également sur ces questions de guerre et autres. Je ne suis pas un élu de l'Est de notre pays. L'honorable M. Dépouillé est de l'Est de notre pays. J'espère que ses électeurs ont suivi l'optimisme avec lequel il décrit la situation dans laquelle il vivra ces gens de l'Est de notre pays, dans le Massissi, et partout où, effectivement, nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et énormément. J'ai un peu suivi, en tant qu'acteur politique, je dirais même très bien suivi, la situation de l'Est de notre pays, et j'ai plus l'impression qu'à chaque fois qu'il y a eu une avancée ou une tentative d'avancer, ça avait plutôt été par le fait d'une implication personnelle de Joseph Kabila, puisqu'en définitive, ce dernier savait que les élections arrivant, l'Est étant originellement son bastion électoral, il devait s'impliquer, ce n'est qu'à la suite des implications spontanées de Joseph Kabila qu'à chaque fois nous avons pu assister à des avancées. Autrement dit, il peut y avoir des avancées, mais tant qu'il n'y a pas une dynamique gouvernementale avec des projections bien établies, nous allons continuer à faire un pas en avant et deux pas en arrière. La République démocratique du Congo reste quand même la capitale mondiale, si vous voulez, du viol des femmes. Et c'est pas nous qui le disons, ce sont toutes les ONG qui en parlent. Maintenant, revenons sur les libertés, la sécurité des personnes et des biens. Vous vous souvenez de tout ce qu'il y a eu comme assassinat non élucidé dans notre pays, les journalistes, le musellement de la presse et autres, ce sont des problèmes fondamentaux de droits de l'homme qui mériteraient, si vous voulez, un meilleur traitement. Et à ce rendez-vous-là, le gouvernement a été totalement absent. Je pense ici à Serge Maïché, aux défenseurs des droits de l'homme, et autres qui ont disparu, GBA. Donc vous voyez, il y a de vrais problèmes sur ces questions-là de notre pays, et le gouvernement n'a pas apporté de véritables solutions à tout cela. Donc oui,
voilà. Juste une petite précision avant de vous redonner la parole. D'abord, qu'il n'y a pas deux députés de la majorité qui interviennent dans l'émission. Les éléments sonores que vous entendez, c'est le ministre honoraire Lambert Mende, qui, je pense qu'il est normal, a des choses à dire quant au bilan du gouvernement dont il était le porte-parole. Donc, il n'y a pas deux députés de la majorité dans l'émission. Excusez-moi, en ce qui concerne le temps de parole, l'honorable Ndekoué est à 10 minutes, vous êtes à 9 minutes, le professeur Virgence est à 5 minutes. Donc je pense que pour question d'équilibre, il n'y a pas de problème. Donc sur le plan sécuritaire, honorable, pour revenir à l'essentiel, vous voulez dire que l'Est continue à demeurer le ventre mou de la RDC?
Non, c'est une évidence, parce que la problématique de la sécurisation de l'Est, elle est complexe. Il y a des aspects militaires, c'est vrai, mais il y a des aspects diplomatiques et des aspects humanitaires. C'est une problématique qui doit être embrassée dans sa globalité, et ce ne sont pas les actions sporadiques et non coordonnées qui pourraient nous rassurer quant à une dynamique de pacification. Il y a eu des avancées, je l'ai précisé, généralement par l'intervention directe de Joseph Kabila, le président de la République lui-même, et ce n'était pas le résultat d'une politique gouvernementale, sinon alors je mets au défi l'honorable Zécouillé de nous expliquer par quel mécanisme nous avons eu les différents accords à Manille et autres. C'est le chef de l'État, à travers des initiatives avec son homologue, qui a entrepris un certain nombre de choses. Ceci est évidemment à mettre à l'actif du chef de l'État, mais là encore, on en revient à la problématique de la prise en charge globale de cette problématique.
Merci.
Qui ne s'est pas faite, autrement dit, quelques avancées, mais il n'y a pas eu de dynamique. La dynamique, ce serait celle de prendre en compte les aspects militaires, les FDR, qu'est-ce qu'ils deviennent, le problème rwandais, est-ce qu'on intègre ça dans la problématique congolaise, parce que finalement c'est lié, tant que le Rwanda, tant que les FDR, les Hutus, ne seront pas rassurés que de retour dans leur pays, ils pourront vivre paisiblement, il y aura toujours cette nécessité de l'implication de la majorité du gouvernement Tutsi, du Rwanda, de s'interposer dans tout ce qui se fait en République démocratique du Congo. Tant que les questions humanitaires, les nombreux déplacés n'auront pas trouvé des exutoires quant à leur situation de précarité, il y aura toujours une tentation à la facilité, à la prise d'armes, à la formation de groupuscules armés et autres. La question diplomatique, les questions commerciales, comment est-ce que nous mettons tout cela ensemble? Allez, prenez l'exemple de la France et de l'Allemagne sortie de la Seconde Guerre mondiale.
Merci, honorable. Vous avez pratiquement une minute d'avance sur l'honorable Nzekouye. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Virgence, sur le plan sécuritaire, l'honorable Tambinga a dit tout à l'heure qu'on avançait d'un pas, mais qu'on reculait, par exemple, de 10.
Je pense que là, il y a effectivement, du côté de l'Est, en tout cas, dans le Nord-Kivu notamment, une très grande déception par rapport à la situation sécuritaire. Les gens attendaient de l'État congolais qu'il soit bien plus efficace dans la poursuite des facteurs d'instabilité et d'insécurité. Je pense qu'il y a une véritable perte de légitimité de la part du gouvernement et de l'armée. Je suis étonné en fait que les deux honorables qui viennent de parler n'aient pas mis plus en évidence le problème, me semble-t-il, vraiment crucial que représente l'armée en République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont perçues par la population comme étant purement et simplement un groupe de gens armés qui n'obéissent à personne, qui d'ailleurs ne sont pas payés et qui en réalité vivent sur l'habitant. Donc le militaire, au lieu de protéger le citoyen, est perçu comme un danger pour le citoyen. Et ça, je pense que sur le plan sécuritaire, ça installe l'insécurité non seulement dans l'Est, mais dans tout le pays. Chaque fois qu'un citoyen croise un groupe de militaires, il se sent en insécurité en République démocratique du Congo. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui vient de la situation terrible que le Congo a vécue entre 1996 et 2003. On sait que ce genre de situation de désordre complet et de rupture totale des chaînes de commandement ne se rétablit pas du jour au lendemain. Cette espèce d'anarchie violente dans laquelle les Congolais ont dû se débrouiller au moment où l'État est en train de partir dans tous les sens, eh bien, doit être remplacée au fur et à mesure par une institution, une armée, qui commence à juger l'efficacité de ces mesures et qui n'a pas peur de juger effectivement les membres de l'armée qui agiraient mal éventuellement. Et donc ça, je pense que mettre de l'ordre dans l'armée, c'est vraiment un sujet de préoccupation qui ne concerne pas seulement l'Est, mais qui concerne l'ensemble du pays. Mais effectivement, l'Est est beaucoup plus fragile et là, je pense qu'on a bien raison de dire, comme l'honorable vient de le signaler, que cette pacification ne sera pas le fait simplement de la République démocratique du Congo, mais doit être menée en conjonction avec une action diplomatique internationale, parce qu'effectivement, il y a des facteurs d'instabilité qui dépendent aussi de ce qui se passe à l'extérieur des frontières de la République.
Merci, professeur Pierre Virgence. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. Il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Nous allons prendre le dernier aspect, l'aspect politique. On écoute l'honorable Lambert Mende, ministre honoraire de la Communication et des Médias.
Sur le plan politique, nous avons consolidé les valeurs démocratiques. Nous sommes dans un pays où l'expression politique est libre, quoi qu'en disent souvent nos contradicteurs de l'opposition. Il y a donc une évolution positive des libertés fondamentales, de la liberté d'expression. Et nous, comme gouvernement, nous sommes fiers d'avoir réussi non seulement à préserver ces libertés qui ont été conquises de haute lutte par notre peuple, mais à les avoir consolidées, à les avoir ancrées dans les pratiques quotidiennes de la vie sociale et politique dans notre pays.
En résumé, donc, vous pouvez dire que le bilan du gouvernement Mobutu est vraiment positif.
Le bilan du gouvernement Mobutu est globalement positif. Aujourd'hui, on est mieux au Congo qu'on l'a été il y a 10 ans. Le Congo ne s'est certes pas transformé en un paradis, mais il y a eu des évolutions tout à fait notables. Donc, tout esprit intellectuellement honnête devrait pouvoir prendre en compte dans l'analyse.
Honorable Germain Kambinga, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et porte-parole du NLC. Sur le plan politique, d'après le ministre honoraire Lambert Mende, le pays a gagné en démocratie. Brièvement, honorable, quelle est votre réaction?
Écoutez, je suis membre de la commission de la rédaction du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et j'avais très précisément proposé la mise en place d'une nouvelle commission permanente chargée des questions des droits humains et des libertés. Parce que précisément pour nous, membres d'opposition, il y a un autre constat que nous faisons. Il y a des difficultés dans l'expression des libertés publiques. Prenez un exemple, lorsqu'il s'agit d'organiser une manifestation publique, la Constitution nous a libérés des contraintes de l'autorisation et nous a inscrit dans une logique d'information. Mais ceci, c'est ce que disent les textes, mais en application, il y a des difficultés énormes pour les acteurs de l'opposition de s'exprimer, de manifester et de faire parler des droits constitutionnels qui sont pourtant reconnus par notre constitution. Autrement dit, il y a une évolution en termes de démocratie de façade, mais la démocratie, ce n'est pas du simple militantisme institutionnel. C'est toute une philosophie de vie, c'est toute une perception de la République et une conception de la société.
Merci. Honorable Nzekouye, il est difficile pour les acteurs de l'opposition de s'exprimer. C'est l'honorable Kambinga qui le dit sur le plan politique. Quelle est votre réaction?
Donc, je crois que les opposants confondent liberté et anarchie. Vous savez, la dernière manifestation qui a été interdite, le gouverneur a montré un certain nombre d'éléments. Une manifestation doit avoir un itinéraire, les organisateurs doivent être clairement identifiés. Et ils veulent qu'en dépit de tout cela, on autorise des manifestations. Mais regardons, mon cher ami, nous sommes dans un pays où il y a 45 chaînes de télévision, autant de tabloïds des journaux qui, à longueur de journée, peuvent injurier qui ils veulent sans être inquiétés. Nous avons eu des candidats aux élections qui sont autoproclamés président de la République. Personne ne les a inquiétés. Et même après les élections, certains ayant perdu continuent à se faire appeler président de la République. Ils demandent aux militaires de les ramener le président élu main liée pour qu'ils les sanctionnent. Qui demandent aux populations d'aller libérer des prisonniers dans les heures. On a vu ça dans quel pays du monde? Nous sommes un pays où il y a les plus grandes expressions démocratiques, où les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent sans jamais être inquiétés.
Et où la répression bat également son plein.
Mais je ne sais pas où on a réprimé ces genres de situations. C'est vrai qu'il y a des cas malheureux, des personnes incontrôlées qui arrivent parfois à se prendre pour l'organe de la loi. Mais ce sont des cas très marginaux dans ce pays. Et donc, je crois que ce qui est la règle plutôt dans ce pays, c'est que nous sommes un des pays où il y a la plus grande expression démocratique. Et les gens qui viennent même de l'Occident, quand ils voient de quelle manière nous exprimons librement sur les chaînes de radio et de télévision, comment nos journalistes de la presse écrite écrivent tout ce qu'ils veulent sans être inquiétés, on se dit, mais écoute, ça c'est le paradis démocratique.
En guise de conclusion, honorable Ndekouye, qu'est-ce qu'on retient du bilan du gouvernement Mobutu?
Nous retenons du gouvernement Mobutu qu'il a fourni des efforts pour ramener la paix dans ces pays et particulièrement à l'est du pays, même si j'ai dit encore une fois qu'il y a encore des postes de résistance et les gouvernements qui vont être mis en place doivent s'attaquer en toute priorité à régler cette question pour que à l'est on vive aussi en paix qu'à l'ouest du pays. Mais du coup, on est bien économique, on a stabilisé les cadres macroéconomiques, il faudra maintenant qu'on s'attaque au social, augmentation du revenu de la population, et du coup, les vues politiques, renforcer effectivement les acquis démocratiques et politiques pour que tout s'exprime de la meilleure manière dans ce pays.
Merci. Professeur Pierre Virgence, en guise de conclusion, un mot sur l'aspect politique. brièvement aujourd'hui?
Alors, cette politique, je pense qu'on peut dire très brièvement qu'en 2006, la campagne avait été un été très dur également. Hein, on n'oublie pas le terme de congolité qui avait été importé de Côte d'Ivoire, en quelque sorte, par sans ressemblance avec l'ivoirité dans le débat politique, et donc c'était très très dur. Ici, le débat a plus porté sur les réalisations du gouvernement. Donc on peut dire que le simple fait qu'il y ait eu un gouvernement, un parlement qui a tenu la longueur, qui a respecté grosso modo les délais constitutionnels de consultation des électeurs, cela déjà, c'est un grand acquis de l'ensemble des Congolais, majorité et opposition. Il y a eu un recours aux urnes, et même si toute une série de gens, d'observateurs, de Congolais,
merci,
sont très fâchés dans la manière dont les électeurs se sont passés, il y a quand même eu des élections, et ça c'est, je pense, un signe significatif.
Merci au professeur Honorable Kambinga. L'honorable Nzekwe a 10 secondes de plus que vous. En 10 secondes, votre conclusion, je vous
prie. Écoutez, je crois que c'est une parenthèse. Je parle de ce gouvernement qu'il faut très rapidement refermer. La République démocratique du Congo a été supervisée, mais n'a pas été gouvernée ces trois dernières années. Nous espérons qu'à la faveur de l'avènement d'un nouveau gouvernement, la majorité nous fera le grand plaisir de nous offrir un gouvernement de compétences et non plus un gouvernement de convenance.
Merci honorable, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci monsieur d'y avoir participé. Retrouvez cette émission sur radiocatu.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h40 de Kinshasa. Au revoir.